10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Gérard Larcher, bonjour.
Bonjour.
Sun Tzu, le stratège chinois, enseignait un principe aux généraux. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Président du Sénat, deuxième personnage de l'État, l'art de la main de fer et du gant de velours n'a pas de secret pour vous. Mais récemment, vous êtes quand même devenu un adepte de la guerre frontale face au président de la République. Peu de choses auront été faites en 5 ans, avez-vous dit au journal du dimanche. Alors, vous avez un problème avec le calendrier parce qu'on est quand même uniquement en janvier 2021. Pourquoi vous dites ça?
Parce que je me suis posé une question de fond. Pourquoi on en est là? Est-ce que n'est pas en cause notre méthode de gouvernance d'un État hyper concentré? Et au fond, est-ce que les crises que nous traversons ne sont pas révélatrices de cette mode de gouvernance totalement inadapté? J'allais dire, la relation avec les collectivités locales. Septembre 2018, nous sommes à Marseille, Territoires Unis. Les Gilets jaunes, quelques semaines après. La crise des retraites. Tout ça provoqué par cette hyper-concentration, cette verticalité du pouvoir. Et puis la crise sanitaire, là, le président Macron n'y est pour rien, reconnaissons-le, mais cette réponse hyper-centralisée, est-ce qu'elle est adaptée? Alors, avec une réalité, permettez-moi de dire, est-ce qu'on a bougé en 3 ans, et je parle d'avant la crise Covid, est-ce qu'on a bougé sur 2 sujets qui étaient des engagements majeurs du président de la République? La réforme de l'État et la maîtrise de la dépense publique.
Alors, sur ces 2 sujets et tous les autres, effectivement, à vous entendre, on a bien compris que la droite aimerait bien ne plus relancer la machine à perdre après 2 élections présidentielles perdues. Pour vous questionner sur tous ces enjeux, je salue Nicolas Barré des Échos, Damien Fleurot de CNews, qui ouvre ce grand rendez-vous.
Oui, Gérard Larcher, bonjour.
Bonjour.
Vous avez bien sûr suivi la conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre, qui a lancé un avertissement, en quelque sorte, aux Français. C'était jeudi dernier, en annonçant la généralisation du couvre-feu à 18h. Écoutez-le.
Je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement. Car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité.
C'est ça l'année d'espérance qu'il annonçait, c'est couvre-feu et confinement?
Non, moi je suis favorable aux mesures sanitaires. Je suis favorable à des mesures sanitaires qui aient éventuellement des souplesses d'adaptation territoriale. Nous sommes face à une pandémie, nous voyons bien que nous avons de grandes difficultés à la maîtriser, et cette réponse-là, elle m'apparaît nécessaire.
Alors, Nicolas Barré, une information.
Le gouvernement pourrait, selon nos informations, exiger dès la semaine prochaine des tests PCR à l'entrée en France pour tous les voyageurs de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes, par exemple, favorable à un tel durcissement?
Je pense que c'est une décision collective que nous devons prendre, les 27 Européens. Et cette décision collective, qu'elle s'applique en France, j'y suis favorable. J'insiste sur le collectif parce qu'on ne peut pas demander plus d'Europe pour faire face à la pandémie, et d'un seul coup que la décision soit strictement individuelle. Ça peut aller d'ailleurs jusqu'à la fermeture des frontières entre notre pays et l'Irlande,
donc
par exemple, si on n'arrive
existe
pas en Irlande à contenir cette pandémie et cette nouvelle variété de virus. Mais je crois qu'il faut faire collectif.
Vous confirmez donc ce projet? Vous êtes au courant de ce projet?
Bien, ce projet va faire l'objet vendredi d'une conférence des chefs d'État et de gouvernement.
Damien Fleurot.
Mais on a l'impression, Gérard Larcher, que dans cette crise, le gouvernement est parfois ou souvent en retard parce que cette mesure, elle est déjà en vigueur dans d'autres pays de l'Union européenne. La France est-elle toujours à la traîne?
Je ne sais pas si la France est à la traîne parce qu'à écouter parfois le Premier ministre ou le ministre de la Santé, nous serions parmi les meilleurs, mais je ne suis pas là pour distribuer ni des palmes, ni un bonnet d'âne. Le vrai sujet, c'est comment nous faisons face à la pandémie. Et c'est ça les réponses que nous devons apporter.
Oui,
et voilà pourquoi,
pardonnez-moi,
mais quand le Premier ministre parle de polémique, moi je dis non, il est logique que des politiques, il est logique que des élus locaux, il est logique que des représentants d'organisations professionnelles tire la sonnette d'alarme. On ne peut pas dire que la mise en place de la première stratégie vaccinale, y avait-il une stratégie, a été couronnée de succès. Voilà les réalités. Donc je n'admets pas ces polémiques, pas plus que je n'admets qu'on mette en cause des élus au prétexte qu'il ferait campagne électorale. Je vous dis les choses telles qu'elles sont.
Ah, là, vous répondez effectivement à l'attaque assez généralisée hein, au sein du gouvernement, face effectivement à nombreux élus, où on les a accusés tout simplement de critiquer à des fins électorales.
Qui ouvre aujourd'hui les centres de vaccination à partir de demain, si vous n'aviez pas les maires, si vous n'aviez pas le soutien des régions, si vous n'aviez pas le soutien des départements? Voilà la réalité.
Alors, le passeport sanitaire, qui aussi commence à faire débat, est-ce que, justement, vous y seriez favorable pour pouvoir assister à de nouveau à un match de football, à un spectacle, prendre un avion?
On adore ce genre de débat. Il faut d'abord que nous ayons suffisamment de vaccins pour vacciner une part importante de la population. On va essayer de serrer les priorités. Je rappelle 44 millions de Français concernés. Second des sujets, attention aux discriminations. Alors, il existe déjà des obligations vaccinales. Par exemple, pour aller dans un certain nombre de pays, la vaccination fièvre jaune fait partie de nos accords internationaux. Mais méfions-nous dans ces débats de le poser tellement en amont avant que nous ayons résolu la couverture
vaccinale. Vous dites
que
ça pourrait être discriminatoire, le passeport
vaccinal. Oui, ça pourrait être. Est-ce que vous demandez à l'entrée d'un restaurant? Est-ce que vous demandez à l'entrée d'un théâtre? Si j'ai été ou non vacciné, un vrai sujet de liberté, c'est un vrai sujet de discrimination.
Mais vous ne répondez pas oui ou non. Par exemple, pour assister à un
match
de foot...
Mais parce que ce n'est pas si simple, Nicolas.
Oui, mais il y a un moment où il faut
décider.
Non, mais
ça n'est pas si simple. On ne répond pas par oui ou non. Ah bah. D'abord, avant que nous ayons atteint ce qu'on appelle le matelas vaccinal, parce qu'à ce moment-là, la question ne se posera plus.
Oui, mais on voit par exemple que certains pays ferment des liaisons aériennes entre l'Italie et le Brésil face à l'avancée du virus.
Mais ça, ça nous renvoie à la question précédente. Fermeture des frontières, réponse oui.
Fermeture des frontières, réponse oui. Les différents variants risquent de devenir dominants. On le voit bien avec la progression de l'épidémie. Et on le comprend dans la tonalité de l'exécutif. On va vers un nouveau confinement, Gérard Larcher?
Je ne sais pas si on va vers un nouveau confinement. Nous suivons avec attention l'évolution de la pandémie. Nous voyons que face à cette pandémie, les Français ont une sacrée résilience. Je crois qu'on pourrait rendre hommage aux Français qui acceptent cette résilience,
qui acceptent aux contraintes,
qui acceptent leur réduction de leur liberté, car ça n'est pas rien de ne plus pouvoir aller au restaurant, de ne plus pouvoir avoir accès à la culture, de demain peut-être voir encore des déplacements limités. Voilà pourquoi j'insiste. Quand on réduit les libertés, il faut que ça soit proportionné à l'enjeu, et ça doit se faire sous le contrôle du Parlement.
Au moment où on voit que la production de vaccins Pfizer ralentit, les Français s'affirment de plus en plus pro-vaccin, je ne sais pas s'il faut y voir un lien, mais finalement, est-ce que l'Europe n'a pas eu la bonne stratégie en multipliant les fournisseurs?
Je pense que l'Europe, c'est une réponse mutualisée à notre problème vaccinal, et je vois beaucoup de gens pronts à critiquer cela. Non, nous avons un sujet industriel, aujourd'hui dans la production des vaccins face à la demande mondiale. Nous avons aussi un sujet industriel en France. Et pas simplement parce que Sanofi rencontre des difficultés, ça peut arriver dans un process de biotechnologie.
Alors quel est-il ce problème industriel?
Parce que nous avons affaibli notre outil de production pharmaceutique. Et parfois, pour des motifs très libéraux, souvenez-vous de produits de base, quand on s'est aperçu que la production de masques était délocalisée par rapport à l'Europe. Quand on s'est aperçu que la production de Doliprane, eh bien, elle était délocalisée essentiellement en Chine. Je dois dire que face à cela, pendant des années, la variable d'ajustement dans l'équilibre budgétaire était taxée un peu plus l'industrie pharmaceutique. Je ne suis pas certain qu'on ait pris les bonnes décisions.
Ça, la droite l'a fait aussi. Hein. Les gouvernements de droite l'ont fait aussi.
Tout le monde l'a fait. Pendant des années, je vous dis, ça fait 20 ans que c'est la variable d'ajustement.
Alors justement, le gouvernement français, eh bien, aujourd'hui, soutient massivement son économie. C'est unique au monde, hein, c'est quand même, il faut le dire. Les artisans, tout de même, les petites entreprises souffrent énormément. Est-ce qu'il faut faire plus pour les aider? Comment faire en sorte qu'ils ne soient pas en première ligne touchés?
D'abord, le gouvernement, c'est vrai, fait beaucoup. D'ailleurs, le Sénat a voté l'ensemble des mesures de soutien, les a même renforcées en direction des petites et des moyennes entreprises.
Hein,
bien sûr que, heureusement, dans quelle situation serions-nous? Gouverner, c'est assumer un certain nombre de responsabilités. Moi, je suis inquiet pour un certain nombre de secteurs d'activité. Il n'y a pas que les petites et moyennes entreprises qui, naturellement, sont impactées. Il y a des secteurs totalement à l'arrêt. La restauration... les bars, des éléments de vie quotidienne, l'événementiel, ce sont des secteurs d'activité. Le tourisme connaît de grandes difficultés. Je pense aussi à l'aéronautique, avec l'ensemble des sous-traitants. Alors, quand vous étiez, j'étais il y a quelques semaines à Albert, dans la Somme, l'essentiel de l'activité, c'est la sous-traitance aéronautique. Quand vous êtes dans la vallée de la Seine et que vous voyez la restructuration de Renault avec les conséquences sociales, vous avez les secteurs qui sont en panne. Donc, nous devons continuer à soutenir ces secteurs, sans doute à les transformer pour certains d'entre eux,
certains
et à soutenir les petites et moyennes entreprises.
Justement, Gérard, certains réagissent. Une autre information que l'on vous soumet, au 1er février, un certain nombre de restaurateurs, sous la houlette de leur syndicat, s'apprêtent à ouvrir, quand même, malgré donc, l'interdiction, tout en respectant les gestes barrières. C'est une fronde qui est en train de se préparer. Vous les soutiendrez ?
Je soutiendrai la loi, moi, et la décision. Nous aurons d'ici là un débat sur l'urgence. C'est un sujet qui doit être abordé par le Parlement. Et moi, je soutiens la loi. Mais je comprends leur souffrance, je comprends leur douleur, je comprends qu'ils soient à court de trésorerie. Et ça, nous devons être attentifs. Je parlais de la résilience des Français.
Et là, on est face à l'impatience maintenant, et la résistance même.
Oui, il faut que le gouvernement soit très attentif à celles et ceux qui souffrent. Et je pense aussi aux plus pauvres, on en parle peu. Je pense aux étudiants qui sont dans leurs chambres, dans les cités universitaires. Là, il y a des vraies souffrances. Elles ne sont pas toujours que financières. Elles sont profondément humaines.
On se retrouve avec Gérard Larcher dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Gérard Larcher, président républicain du Sénat, Damien Fleurot.
Oui, Gérard Larcher, on parle d'une des priorités de l'exécutif, la lutte contre les séparatismes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reçu hier au ministère des dirigeants de l'Islam de France. Un accord a été trouvé sur une charte des principes de l'Islam de France. Cet accord, il prévoit notamment l'égalité homme-femme, la non-ingérence des États étrangers. Tout ça va dans le bon sens.
Oui, je dirais enfin un texte sur les valeurs de la République. Depuis le discours des Bernardins jusqu'au discours des Mureaux, je dois dire qu'il y a une lente maturation, elle m'apparaît indispensable. Dans ce pays qui court le risque d'être fracturé entre communautés, de perdre ce qui a été un des piliers de la République avec l'école, avec la commune. Et la loi de 1901, c'est la loi de 1905. Qu'est-ce que cette République laïque qui, suivant le principe d'Aristide Briand, la loi doit protéger la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi. Eh bien, je dois dire que le culte musulman rentre et accepte de rentrer dans ces valeurs de la République, c'est une bonne nouvelle et pour les musulmans de France et pour la République. Et
allons même plus loin, parce que vous le dites régulièrement, vous êtes un connaisseur de l'histoire des religions, c'est un tournant majeur. Si effectivement cela s'avère et se confirme, vous avez souvent exigé de la part du président de la République qu'il soit un peu plus bonapartiste selon vos propres termes. Est-ce que là, vous lui rendez hommage de ce volontarisme, de dire, voilà, on arrive à un moment très important?
Oui. Vous savez, la République ne s'occupe pas de l'organisation des religions. Ça appartient à chaque culte.
Et pourtant, oui, on voit bien que comment l'exécutif
mais
est volontariste.
L'exécutif, comme nous l'avons été au législatif, je rappelle 10 rapports parlementaires sur ce sujet en 6 ans. Eh bien, j'ai rencontré le président Moussaoui, et je dois dire, je voudrais rendre hommage au président Moussaoui et à ses deux vice-présidents, malgré les discordances qu'il y a pu y avoir, de conclure que les principes d'égalité hommes-femmes, que, par exemple, que la question de l'apostasie, c'est, j'allais dire, une liberté. On peut changer de religion. On a le droit de croire ou de ne pas croire que certaines pratiques coutumières n'ont pas, j'allais dire, droit de république, mais aussi droit de religion. C'est une bonne nouvelle.
Mais alors, Nicolas Barré.
Gérard Larcher, cette charte, donc, maintenant, va exister. Qu'est-ce qui va se passer si certains responsables religieux, certains imams, ne la signent pas?
Nous aurons un certain nombre de textes qui visent à préserver les valeurs de la République, à les renforcer. Un certain nombre de décisions, par exemple le financement des lieux de culte, la transparence des financements, l'organisation d'une religion qui soit en prise avec la République, donc la formation, il n'y a pas d'ecclésiastique. d'ecclésiastique dans la religion musulmane, la formation des imams, la qualité des aumôneries, tous ces sujets-là vont devoir être traités. Moi, je pense, depuis toujours, je l'ai dit, l'islam est compatible avec la République, mais naturellement, l'islam de France doit reconnaître ses valeurs de la République. Nous aurons un débat qui ne doit pas être un débat, j'allais dire, replié sur nous-mêmes, un débat de peur, qui doit être l'occasion de réaffirmer la laïcité, le droit de croire et de ne pas croire, mais en même temps de rappeler que ça n'est pas la foi ou un culte, quel qu'il soit, aussi respectable qu'il soit, qui dicte la loi.
Alors justement, il y a beaucoup de débats, au sein même d'ailleurs de la majorité. Nicolas Barré.
Oui, on voit certains, enfin une députée notamment, Aurore Berger, qui est élue des Yvelines et qui veut interdire le port des signes religieux chez les petites filles. Plus largement, sur le texte sur le séparatisme, comment est-ce que vous comptez l'aborder au Sénat ?
De manière, en nous appuyant sur les rapports que nous avons eus, sur des auditions, et de manière sereine. On ne va pas réouvrir le débat sur la soutane. Débat qui avait opposé Combes à Aristide Briand.
Oui.
Nous allons simplement aborder le sujet, car quand le Sénat a défini le périmètre du service public, souvenez-vous sur l'école, sur les sorties scolaires, nous avions dit, est-ce que des parents accompagnant une sortie scolaire, est-ce que le port d'un insigne religieux ou un signe religieux, c'était le voile, est-ce que c'est conforme à ce que un sujet que nous avons traité deux fois au travers du port du voile et du port d'un niqab ? Eh bien, c'est des sujets que nous allons mettre sur la table, mais je me méfie de tout ce qui pourrait être quelque part une vraie réduction des libertés. Voilà pourquoi j'ai dit on ne va pas recommencer le débat sur la soutane.
Madame Fleurot.
Autre sujet qui occupe l'exécutif, le texte sur la sécurité globale. Il y a eu encore des manifestations hier, notamment à Paris. La polémique autour de l'article 24, cet article qui prévoit de filmer les forces de l'ordre lors des manifestations. Est-ce que cette polémique, elle est oubliée ?
En tous les cas, nous y travaillons, et pas simplement sur l'article 24, parce que la proposition de loi, qui peut-être aurait mérité d'être examinée par le Conseil d'État, mais il aurait fallu le faire à l'origine.
C'est... Parce que vous avez, vous avez des doutes sur...
Non, c'est un texte utile. Rôle des polices municipales. Rôle de la sécurité privée et articulation. Utilisation d'un certain nombre de moyens. Et donc, c'est un texte utile. Qui d'ailleurs s'inscrit dans une autre réflexion sur la sécurité que le gouvernement a annoncée et dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Parce que la réalité,
vous y croyez à ce Beauvau de la sécurité ? Il va pouvoir donner
des cas,
résultats ?
Ce que je vois, c'est que les agressions contre les forces de l'ordre, en 15 ans, doublement chez les policiers, en 10 ans, près de 80% d'agressions de plus contre les gendarmes, et plus de 200% en 10 ans sur les sapeurs-pompiers. Voilà la réalité. Il faut donc des Beauvau de la sécurité qui ne soient pas des mots, mais des actes concrets. Et je reviens à votre question. Article 24, le sujet du texte tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale, c'est bien sûr le sujet du lien avec la loi sur la presse de 1881. Et donc, il faut le déconnecter. Il faut en même temps trouver la protection, j'allais dire, des vies personnelles, des gendarmes et des policiers, dans le cadre des opérations de police qui étaient menacées sur un certain nombre de réseaux. Et on doit trouver ces réponses. On a un autre sujet, l'utilisation des drones, dans quelles conditions ? Vous savez, nous sommes très attachés aux libertés, mais je rappelle que l'état des forces de sécurité en 2018, c'est un rapport de deux sénateurs, un socialiste, ALR, Michel Boutant, François Grandidier, qui en fait décrivait l'état moral.
Alors, sur un autre sujet lié donc à la lutte contre le djihadisme, le terrorisme, on sait que ça passe aussi par une région centrale, stratégique qui est le Sahel. La présence française dans le Sahel, pour vous, est-elle toujours efficace lorsqu'on voit que des pays de la région, eh bien, en ce moment, négocient, discutent avec les groupes djihadistes de leur contrée ? Est-ce que, du coup, on n'y est pas pour rien ?
Nous sommes des soldats tombent là, pour rien ? Aux avant-postes de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes aux avant-postes aussi de l'utilisation de populations pauvres dans des phénomènes migratoires par un certain nombre de pays. Notre présence est indispensable. D'ailleurs, je rappelle que nous y avons été à la demande du Mali, avec le soutien de l'Organisation des Unies. des Nations Unies. Et je voudrais à cet instant quand même penser à nos 50 soldats qui ont donné leur vie pour la sécurité du Mali,
Barkhane,
la sécurité. Alors
elle,
aujourd'hui,
elle
il faut
commence
sans
à peser
doute
sur
évoluer.
Le moral des armées, sur l'efficacité politique.
Les batailles ont été gagnées, mais on ne gagne pas uniquement au plan militaire. La paix, elle se gagne. Et dans la mise en place dans ces pays de gouvernement qui puissent faire l'unité de ces pays, c'est le défi pour le Mali. Quelle unité demain avec le Nord ?
En ce moment dirigé par une junte militaire, est-ce qu'il faut que le pouvoir civil reprenne le contrôle au Mali ?
C'est un processus indispensable, c'est un processus de rassemblement. Je recevais cette semaine le président de la Chambre des représentants de la Libye, parce que la Libye, c'est à la fois un témoin, entre guillemets, un baromètre, le mot est à la mode, et une réalité où le terrorisme, les phénomènes migratoires sont exacerbés, car ils sont le reflet de ces déstabilisations conduites par ce terrorisme djihadiste.
Donc l'opération Barkhane, en un mot, elle doit se redéployer, mais se maintenir pour vous.
Oui, et il faut que les pays africains, dans le cadre du G5, montent en puissance, en efficacité, c'est ce que nous faisons avec eux. Et on a besoin de plus d'Europe, parce que nous sommes souvent seuls. Nous avons besoin de plus d'Europe. Quand on parle de forces spéciales, nous en sommes aujourd'hui à 40 Estoniens, quelques Tchèques, quelques Suédois. Il y a bien sûr la logistique d'un certain nombre de pays, mais nous avons besoin que ce défi, qui est un défi pour toute l'Europe, il soit relevé par toute l'Europe, avec le soutien des États-Unis. C'était un sujet d'interrogation.
On va en parler.
L'élection de Joe Biden, je l'espère, Joe Biden va nous permettre d'avoir plus de certitude.
Gérard Larcher, on en parle, on se retrouve dans quelques instants. Choose France ou pas touche France ?
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Gérard Larcher, président du Sénat. Juste avant de réunir les grands patrons du monde entier, c'était en janvier donc 2020 à Versailles, Emmanuel Macron vantait la stratégie économique pour relancer l'activité et l'attractivité dans le pays devant des salariés. On écoute, on regarde.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'effet concret de ces réunions dont vous entendez parler, qui peuvent parfois sembler très loin, mais où on se mobilise pour convaincre des grands groupes, des grands investisseurs, de choisir la France et d'investir en France.
Donc d'un côté, on dit venez investir en France, et puis de l'autre, pas touche aux entreprises françaises. C'est ce qu'on vient de voir cette semaine avec Carrefour, qui faisait l'objet d'un intérêt de la part d'un groupe canadien et auquel le gouvernement français a dit non.
Il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant-pandémie, il y a un après-pandémie, où la question de la souveraineté, nous l'évoquions tout à l'heure pour les médicaments, ou les masques, a été posée. La question de Carrefour, qui dans notre histoire est le premier hyper, c'est aussi sa relation notamment avec la production agricole et l'industrie agroalimentaire.
C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, oui.
C'est la première partie de son activité.
Mais est-ce que c'est une entreprise
stratégique ? Et vous savez, quand on a les discussions avec les grandes plateformes, souvenez-vous, c'est avant le salon de l'agriculture d'habitude, en février. Il y a des discussions entre la production, la transformation et la distribution. Il est assez important pour un gouvernement qui a eu la volonté d'essayer de résoudre le problème de la juste rétribution des producteurs et des transformateurs à garder des leviers. Donc je pense que dans la situation d'aujourd'hui, y compris dans la situation politique que connaît notre pays, la réaction du ministre de l'économie et des finances, je la partage.
Mais toutes les activités sont essentielles, Gérard Larcher. Dans cette période, ce n'est même plus une question de souveraineté.
L'alimentaire encore plus.
Mais l'automobile également, l'aéronautique.
Oui, bien sûr. Vous pourriez me dire Alstom Bombardier. Vous pourriez. Je crois que ça ne doit pas être l'enfermement sur nous-mêmes, mais la réaffirmation de la souveraineté comme un des primats.
Mais enfin,
à côté de la liberté
Gérard Larcher,
à part,
Nicolas Barré.
À part David Lisnard, le maire de Cannes, aucune voix de droite ne s'est élevée pour rappeler des principes de libre entreprise, d'économie de marché. Alors vous êtes tous devenus dirigistes ?
Non, pas du tout. J'ai rappelé tellement
que dans la question qu'on abordera tout à l'heure de la révision constitutionnelle, je ne veux pas d'un droit qui soit supérieur à la liberté d'entreprendre.
Oui, d'accord, mais là,
mais
là,
la réponse
là vous êtes
de
pris en contradiction quand même, Gérard
Larcher. Vous savez, les arguments qu'on entend des très libéraux, c'est ceux qu'on entendait il y a quelques années quand on nous a dit qu'il valait mieux délocaliser un certain nombre de productions.
Enfin, sauf qu'ils ne sont pas délocalisables, les employés de Carrefour, pardon.
Ce n'est pas les employés de Carrefour, c'est la négociation. C'est la négociation sur le sujet, notamment du plus grand distributeur alimentaire français, de ses relations avec la production et l'industrie agroalimentaire.
Mais Gérard Larcher, Lidl, ça appartient à qui ? Aldi, ça appartient à qui ? Tout ça, c'est des capitaux allemands.
Eh bien,
il n'y a aucun problème de souveraineté alimentaire là-dedans ?
Non, il y a un problème de souveraineté alimentaire, je le dis clairement, qui a imposé, pour le cas de Carrefour, dans l'Union européenne, c'est autre chose.
Pourquoi vous dites, au fond, il y a eu avant-après ? Il n'y a pas plutôt un avant-élection présidentielle ? Où là, il faut envoyer
non,
des signaux
regardez, l'État,
aux deuxièmes lignes, on va dire, à cet électorat populaire qui
dans quel état
va acheter ou travaille chez Carrefour ?
Notre pays va sortir de la pandémie. Croissance, moins 9% en 2020. On espérait un rebond de croissance en 2021. Comme les choses se précisent aujourd'hui, malheureusement, nous n'aurons pas de rebond de croissance. Que notre pays, je ne dis pas qu'il faut en faire un principe éternel, que notre pays privilégie la souveraineté, le gaulliste que je suis, pense que l'État a aussi son mot à dire.
Il n'y aura pas de rebond de croissance en 2021 ?
J'espère que si, mais pardonnez-moi, j'espère que si, mais si,
enfin, vous
tout
parlez,
à l'heure vous évoquiez
vous avez
un reconfinement,
non, quand même.
On a aujourd'hui un couvre-feu à 18h, vous savez bien que ça aura une incidence. Nous avons des pans entiers de l'économie et non des moindres. L'économie touristique qui est à l'arrêt. Comment voulez-vous ? J'espère ce rebond de croissance. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure.
Enfin, c'est pas,
mais
c'est
les
c'est
réalités
pas l'année
risquent
hein.
de s'imposer à nous. J'ai même vu que Bruno Le Maire avait des doutes sur les chiffres de croissance qu'il avait annoncés. Et il est logique qu'il ait ses doutes.
Damien Fleurot.
Oui, ce dossier, il pose aussi plus largement la place de la France, de l'Europe dans le monde. Alors, dans 3 jours, un président américain, démocrate, s'installera à la Maison-Blanche. Est-ce que ça va changer les choses pour nous, pour les Français ?
Ou ce sera toujours America first ?
D'abord, c'est les conditions de l'installation de ce président. Je voudrais vous dire 2 mots. Nous avons assisté aux États-Unis à ce qui était pour nous un peu inimaginable.
La prise du Capitole.
Une transition démocratique dans des conditions de violence et de violence pour partie initiée par le président sortant.
Vous avez
Je pense que les institutions américaines sont solides. Enfin, nous sommes devant la deuxième plus ancienne réelle démocratie du monde. Il faut aussi se poser la question pourquoi on en est là ? Pourquoi cette Amérique du centre, plutôt républicaine, a le sentiment de ne pas être écoutée, entendue, par rapport à une certaine élite ? Ça me rappelle, sans doute de manière, un peu ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes. Il faut que nous soyons très attentifs à nos pays qui se fracturent entre des élites et ceux qui ont le sentiment de ne plus être à la table de la démocratie et d'un certain partage. Alors, Joe Biden. Je pense qu'il va prendre un certain nombre de décisions, parmi lesquelles, la première, c'est la décision climatique. La COP21, nous y étions nous aussi très engagés, la COP26 à Glasgow, et c'est une décision majeure. Et puis, une attitude qui peut être différente, traiter l'Europe autrement que la manière dont on traite la Chine, vous voyez, entre quotas et taxation. Et puis, il y aura des sujets de défense à voir avec l'Europe. Je pense que nous pouvons reprendre... Je ne me fais pas d'illusions. Nous n'aurons pas les États-Unis en adoration de l'Union européenne. Mais je pense qu'on pourra redialoguer sincèrement en donnant le primat à la raison plutôt qu'à la passion.
Autre sujet d'ailleurs qui sera très important dans la nouvelle relation, la nouvelle administration américaine, c'est un sujet que vous suivez aussi de près, ce sont les évolutions géopolitiques au Moyen-Orient, on va dire peut-être nouveau Moyen-Orient, avec ce qui se dessine autour de ce qu'on appelle les accords d'Abraham, l'intégration diplomatique d'Israël avec des pays arabes importants qui se passent en ce moment, dans un silence quasi complet de la diplomatie française. Pourquoi selon vous ?
Parce que depuis longtemps, je crois que nous avons fait... un certain nombre d'erreurs. On nous a annoncé depuis, souvenez-vous, 2012, la chute imminente de Bachar el-Assad. Il est toujours au pouvoir. Nous n'avons pas suffisamment évalué le rôle de l'Iran et de la Russie dans cette région. Nous avons en plus, il y a peu, et notamment à cause de la décision de M. Trump, donné le sentiment que nous oublions nos alliés kurdes et que nous les livrions, j'allais dire, simplement aux désidératas.
Mais là, ce qui se passe, c'est un résultat, un acquis de l'administration de Trump.
Nous sommes encore présents dans un pays comme le Liban qui traverse de grandes difficultés. Je pense que nous allons pouvoir reprendre, mais qu'il faudra tenir compte de cette évolution géopolitique. Car aujourd'hui, ceux qui décident concrètement dans cette partie au nord de la Syrie, par exemple, ce sont les Russes, ce sont les Iraniens, ce sont les Turcs. Et l'Europe, si elle est présente économiquement, n'est pas présente politiquement. Je dois dire que c'est un vrai défi pour la diplomatie européenne et pour la diplomatie française.
Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé aussi ces évolutions parce qu'elles viennent de l'administration de Donald Trump et que c'est un de ses acquis?
C'est sans doute, entre guillemets, un acquis. Je voudrais qu'on soit quand même attentif à la question palestinienne parce que je pense qu'une paix durable ne peut se faire que dans la doctrine que nous avons, deux États, deux peuples vivant en sécurité. Et je dois dire qu'ils sont les oubliés aujourd'hui. Il y a des tas de raisons,
y compris
qui tiennent à la situation des relations interpalestiniennes. Mais je pense que si on n'a pas à terme résolu, on ne construira la paix que dans un dialogue.
Alors, Nicolas Barré.
Trump s'en va, mais bien sûr, le populisme n'est pas mort. Y a-t-il un risque, à vos yeux, qu'un ou une candidate populiste crée la surprise en France en 2022?
D'abord, Joe Biden va devoir recoudre ce pays, va devoir le rassembler. Et à partir de cela, je crois que c'est une des responsabilités. Souvenez-vous, il y a quelques 3 ans, je disais au président de la République, vous êtes le père de la nation. Et je pense que c'est une des responsabilités que nous devons avoir.
Un jeune père, hein?
Oui. Nous devons avoir, et c'est vrai pour moi, comme un des membres de l'opposition au président de la République, les familles de la droite républicaine, du centre, les gaullistes, nous devons être en capacité d'offrir une alternative, mais pas simplement politicienne, une alternative pour permettre à ce pays de se retrouver, de se recoudre, les territoires, en finir avec les communautés. Voilà pourquoi tout à l'heure nous nous réjouissions de la décision de la charte engagée par le CFCM. Nous avons besoin de nous retrouver. Un des enjeux de la future présidentielle, c'est la capacité à rassembler, à apaiser ce pays, à lui donner de l'espérance. C'est vraiment comme ça que je vois. Et si je me suis engagé, c'est que je ne me résous pas à ce que la seule alternative démocratique soit entre le président Emmanuel Macron et Mme Le Pen. Si ça devait être le cas, je crois que ça ne serait pas une chance pour la démocratie. Et si nous devions avoir un deuxième tour, je sais bien quel serait mon choix, mais je pense que ce ne serait pas un bon choix pour le pays. Ce pays doit choisir entre des projets, des perspectives, et non pas entre le rejet de l'une qui serait finalement le seul choix pour un certain nombre de démocrates.
Alors justement, à propos climat et climat politique, on se retrouve dans quelques instants.
10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Gérard Larcher, président du Sénat. Êtes-vous en faveur de la tenue d'un référendum sur l'inscription dans la Constitution de la protection du climat?
C'est une décision qui appartient au président de la République. Il faut d'abord engager le processus de révision constitutionnelle, ce qui doit être proposé par le Conseil des ministres la semaine prochaine. Et donc, conformément au principe de notre Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat examineront le texte proposé par le gouvernement et nous devrons trouver un texte commun à l'issue d'un débat
et d'une procédure parlementaire qu'on appelle la navette.
Alors maintenant, on va traduire vos propos très prudents, parce que derrière, il y a beaucoup d'enjeux. Nicolas Barré.
Oui, justement, sur le fond de ce texte, il y a un débat assez fondamental entre, est-ce qu'il faut dire garantir la protection de l'environnement et inscrire ça dans la Constitution, ce qui serait extrêmement contraignant, ou est-ce qu'il faut dire simplement agir en faveur de l'environnement, ce qui serait beaucoup plus accommodant.
D'abord, il n'est pas illégitime de souhaiter une meilleure prise en compte de la préservation de l'environnement et de la lutte contre
consensuel. Ça, on est
très concrètement, cette semaine au Sénat, à l'unanimité, nous avons adopté un texte sur l'empreinte carbone du numérique qui va représenter en 2040, si on n'y fait pas attention, 7% des émissions de carbone. Il y a déjà dans la Constitution la charte de l'environnement voulue par Jacques Chirac. Faut-il renforcer la place de l'environnement, affirmer la biodiversité? C'est un débat qu'il nous faut avoir. Autrement
que
pour sortir par le haut.
Parce qu'il pense.
Qu'un process pour sortir par le haut d'une convention citoyenne sur laquelle on a beaucoup de mal à donner des suites, parce que peut-être que la procédure n'était pas la meilleure des procédures à suivre.
Alors, donc, nous allons examiner. Vous pensez que c'est un coup politique fait le président de la République et vous ne voulez pas l'aider?
Ça n'est pas le sujet.
Si.
Ça n'est pas le sujet. Je pense.
Ce que je voulais dire. Ça existe déjà.
Je pense que ça n'est pas sans arrière-pensée. Par contre, nous allons examiner de manière ouverte et positive le texte qui va nous être proposé. Je dis bien ouverte et positive. Ça ne veut pas dire, pour répondre, qu'on va dire garantie, on ne va pas répondre aux injonctions des uns et des autres, mais trouver le meilleur équilibre.
Alors,
deux choses. Attendez, ça mérite quand même. Ne pas inscrire dans le préambule de la Constitution ce principe de la protection climatique. Le mettre dans un article, ce sera à la Commission des lois de nous faire des propositions, mais au même niveau que d'autres libertés fondamentales. L'égalité entre l'homme et la femme, la liberté d'entreprendre. Et donc, le mettre au même niveau. Pour que nous ayons une écriture à la fois pragmatique, concrète et efficace, et que la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique soient pris en compte dans notre loi fondamentale, mais ne soient pas supérieures au principe essentiel de notre
condition.
Loi fondamentale.
C'est donc, on comprend que c'est une condition que vous posez. Mais vous allez regarder, vous avez dit ouvert et positif, et avec un calendrier en main. Damien Fleurot.
Oui, Gérard Larcher, est-ce que s'il doit y avoir un référendum, il peut avoir lieu avant l'élection présidentielle en 2022?
D'abord, il faut se poser la question quand aura lieu l'élection régionale, quand aura lieu l'élection départementale dans ce contexte pandémique.
C'est pas au mois de juin ?
Nous allons nous demander, dans le cadre du texte, la proposition du gouvernement, qu'elle se déroule en juin. Je voulais simplement redonner le calendrier législatif et le calendrier électoral. Si nous aboutissons à un texte commun, le président de la République pourra prendre la décision de le soumettre au référendum des Français. C'est sa décision.
Oui, mais attendons, c'est une question de calendrier également. Il y a 4 semaines, 6 semaines obligatoires entre l'Assemblée, le Sénat. On aura effectivement les élections locales très certainement entre-temps. 6 mois avant une élection présidentielle, vous imaginez un référendum?
Ça dépendra du président de la République et de sa décision, respectueux des institutions de la Ve République. À partir du moment où seront tombés d'accord sur un texte commun, eh bien, il appartiendra au président de la République de choisir soit la voie du référendum, soit, s'il y avait d'autres éléments, la voie du Congrès. Mais j'ai compris que le président souhaitait un référendum pour impliquer les Français.
Vous dites qu'il reste 6 mois utiles, en fait.
Oui. Hein.
Donc, à quelle date pensez-vous qu'un candidat ou une candidate pour la droite devra être désigné?
Le plus tard, c'est bien sûr l'automne. Le plus tard, c'est l'automne. Pour une campagne qui se déroulera quand même dans une ambiance particulière. Nous serons, je l'espère, en sortie de pandémie. Nous aurons une couverture vaccinale suffisante. J'espère que nous serons face à la reprise économique dans un contexte néanmoins social, qui sera un contexte social tendu, car naturellement, la montée du chômage est un vrai sujet. Et il faut donc que nous mettions en place, je disais tout à l'heure, le caractère essentiel que les familles politiques de la droite et du centre décident ensemble d'une procédure pour choisir le candidat. Soit on aura un candidat
qui, entre guillemets, s'impose naturellement et nous n'aurons pas besoin de processus de départage, soit nous n'aurons pas ce candidat, il y aura plusieurs candidats, il faudra mettre en place un choix.
LR a décidé que ça peut être effectivement, d'abord, il faudra effectivement attendre les régionales qui seront le juge de paix, ça peut être aussi...
Pas le juge de paix, la date...
En tout cas, pour pouvoir démarrer, et ensuite la capacité, la possibilité de soutenir un candidat, une candidate hors du Parti Les Républicains. Donc ça donne une possibilité pour Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand de pouvoir être des candidats soutenus par LR.
Vous savez, l'élection présidentielle, c'est une relation entre les Français, une candidate ou un candidat. Les partis sont là, j'allais dire, en soutien. La démarche que je conduis en lien avec les présidents des partis et au premier lieu avec Christian Jacob, le président des Républicains, mais aussi dans un dialogue avec le président de l'UDI, le président des centristes, c'est d'abord de rencontrer tous les candidats.
Il y en a beaucoup, potentiels, hein, on a fait la liste
tous les candidats
d'autres
potentiels,
jours, c'est quand même important,
de rencontrer
hein.
les formations politiques pour d'ici la fin du printemps avoir quelque chose de prêt, tranquillement. Mais ça n'est qu'un levier. L'objectif, c'est de permettre aux Français d'avoir un choix démocratique.
Absolument. Mais parlons également clair et parlons vrai. Vous savez, évidemment, je ne vous l'apprends pas, Xavier Bertrand exerce en ce moment une offensive, on va dire, politique pour amener la droite à le soutenir comme étant candidat. Il veut se déclarer après les élections régionales s'il est réélu. Vous considérez que c'est un candidat qui peut réunir donc, sa famille politique ?
Il est un candidat, il y en a d'autres. Et moi, mon rôle, c'est de la rencontre avec chacun des candidats, de trouver le processus. Et je rappelle, soit il y a un candidat qui s'impose naturellement, soit nous aurons un processus.
C'est être en tête dans les sondages d'opinion ou c'est figurer au second tour de l'élection présidentielle à coup sûr.
L'objectif, alors je me suis fait très très mal comprendre, l'objectif c'est d'offrir aux Français au second tour le choix entre Emmanuel Macron s'il est candidat, parce que j'avais vu il y a quelques semaines qu'il avait des doutes sur sa candidature.
Vous y croyez ça ?
Écoutez, s'il est candidat, et une candidate ou un candidat qui représentera la sensibilité des familles de la droite républicaine, du centre qui ne s'est pas rallié à Emmanuel Macron, des gaullistes, c'est tout cela.
Mais en un mot, la colonne vertébrale du projet de ce candidat ou de cette candidate, ça va être quoi ? C'est l'anti-macronisme ?
Non, c'est de redonner une espérance en la France. Et d'éviter que nous arrivions dans la situation qu'on décrivait tout à l'heure.
Pardon,
pour les États-Unis.
Gérard Larcher, excusez-moi, vous parlez des électeurs de droite qui, depuis le début de ce quinquennat, soutiennent pour partie le président de la République parce qu'ils mènent la politique qu'ils aiment et qui correspond à leurs intérêts. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, cinq ans après, ces mêmes électeurs vont retourner vers un candidat de la droite traditionnel ?
Je vous renvoie à mon premier échange. La gouvernance, c'est pas la même. En finir avec cet État obèse, omnipotent, qui a même conçu jusqu'au bout
ça a déjà
à
été
se retrouver
quand
conseil,
des,
quand
quand
conseil de défense
pouvoir, déjà
à
été
3
promis.
Ou 4. En finir, avec une manière de gouverner, par exemple, où au Parlement, on a dépassé les 230 ordonnances, où sur plus de 100 textes, 98 l'ont été avec la procédure d'urgence. Engager la vraie maîtrise de la dépense publique, c'est indispensable. Je disais ce matin que le chef économiste de Bercy disait ce caractère indispensable. Réformer l'État, aller vers une vraie déconcentration de l'État, une décentralisation.
Parce que c'est trop vertical, mais tout ça, on l'entend.
Donner aux valeurs de
la
République de vraies couleurs. Il y a tout un projet qui peut être décliné pour les Françaises et les Français.
Est-ce que la pratique du pouvoir tel que Mme Macron la pose maintenant, on le connaît, les Français le connaissent depuis qu'il est au pouvoir, on aborde l'élection présidentielle. Est-ce que cette pratique politique, pour vous, pose un problème ? Est-ce que cette verticalité que vous avez dénoncée, est-ce qu'il en est prisonnier ?
Je ne sais pas, mais en tous les cas, elle est pour moi à la racine du mal qui m'a dit et qui nous a amené à constater qu'on avait fait peu de choses. Je n'ai pas dit qu'on n'avait rien fait, mais peu de choses. Où en est-on sur la réforme des retraites ? Où en est-on sur des sujets de transformation profonde de la santé dans ce pays ? Où en est-on sur un certain nombre de transformations des responsabilités dans ce pays ?
Donc c'est
Je
un
crois
échec.
Que c'est l'enjeu des projets qui devront être proposés aux Françaises et aux Français.
Et on en reparlera. C'était donc le grand rendez-vous de Gérard Larcher. Merci, à dimanche prochain. Europe 1.